centre de la tête. Ne regardons plus nos erreurs passées. Croyons en l'avenir. Avançons de pas fermés résolus. Sur la route de la paix, yo. Avançons ensemble. Sur la route de la paix. Partager ce n'est pas perdre ce qu'on a, mais accepter de recevoir de l'autre. Partager ce n'est pas perdre.
De la paix. Il est 12h. Le journal du midi. Sonia Nzian.
Bonjour à toutes et à tous. En visite d'amitié et de travail hier en Côte d'Ivoire, le président ghanéen John Dramani Mahama a joint sa voix à celle de son homologue ivoirien Alassane Ouattara pour appeler les pays de l'AES à réintégrer la CEDEAO. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est un modèle de progrès en Afrique et dans le monde. C'est ce qui est entre autres ressorti hier du panel de haut niveau du RHDP sur la gouvernance d'Alassane Ouattara depuis son accession au pouvoir en 2011. Hors de nos frontières au Burkina Faso depuis début des contrôles dans la fonction publique. Et puis l'invité de la rédaction sera Dr Blaise Pierre Norlander, le président du Parti des démocrates de Côte d'Ivoire sur la récente alerte de la SIED face aux propos haineux des politiques sera interrogé en fin d'édition par Soro Adams. Coopération régionale, le retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel AES, de la CEDEAO et la suspension de l'aide des États-Unis. Tels sont les sujets au cœur d'une rencontre entre le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue ghanéen. John Dramani Mahama était hier en visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire. On fait le point avec vous, Jean-Claude Mabéa.
Est-ce possible d'envisager le retour des trois pays de l'AES au sein de la CEDEAO? Le président ghanéen a répondu John Dramani Mahama.
Yes, why not? Never say never.
Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Je dirais qu'il y a toujours la possibilité de ramener nos pays frères à la maison. Il est bon de rester dans un groupe de 15 que de rester dans un groupe de 3.
Le président Alassane Ouattara dit soutenir son homologue ghanéen à réussir cette mission.
Vraiment, j'encourage le président Mahama. Et je voudrais aussi lancer un appel aux pays de l'AES pour dire que nous sommes mieux à 15 qu'à 3. Donc je souhaite que vraiment l'appel du président Mahama puisse être entendu par ces trois pays frères.
Ils se sont également prononcés sur la suspension de l'aide américaine à leurs pays respectifs. John Dramani Mahama.
I think that US has a right.
Vous savez, les États-Unis ont le droit de reviser leur stratégie de coopération, de voir comment est-ce qu'ils pourraient orienter leur financement. Je pense que c'est aussi une opportunité pour nous de voir comment on pourrait compter sur nous-mêmes, de revoir aussi nos stratégies économiques.
Le président Alassane Ouattara.
Nous avons pris des dispositions à notre niveau pour continuer à financer tous ces projets en attendant que les États-Unis reprennent les choses après l'audit qui est en cours. Nous sommes confiants parce que les États-Unis ont toujours été un pays ami de la Côte d'Ivoire.
Rappelons qu'avant son investiture en janvier 2025, le président ghanéen John Dramani Mahama a nommé un envoyé spécial pour renforcer ses liens avec l'Alliance des États du Sahel.
À présent, retrouvons le préfet de Kanyassou, Akpa Aimé Roland, qui exhorte à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale dans la région. C'était à l'occasion d'une cérémonie de remise de tenue traditionnelle aux 14 chefs de village du canton Tron. Son message.
Ces tenues qui vous sont offertes ne doit pas vous faire oublier votre mission. Donc, je voudrais interpeller les chefs de village de nous aider dans la consolidation de la paix, de nous aider à faire en sorte que l'unité puisse régner au sein des fils et filles de Kanyassou, que les cadres puissent s'entendre. Et ça, c'est une mission que vous avez. Je ne voudrais pas mettre le pied dans le plat, mais vous savez de quoi je parle. Donc faites en sorte que les cadres au niveau de Kanyassou puissent s'entendre pour que le développement véritablement puisse être impulsé dans le département de Kanyassou. Pour terminer, je voudrais que l'on soit acteur politique, chef religieux, chef traditionnel. Il convient de tourner le dos à toutes les actions susceptibles de détériorer le climat social. C'est pourquoi je vous demande de vous joindre à nous afin que nous puissions engager ensemble le combat pour la consolidation de l'unité, la cohésion sociale et la paix sans lesquelles aucun développement n'est possible.
Akpa Aimé Roland, préfet de Kanyasso, et puis un séminaire de formation organisé par le ministère de l'Intérieur sur l'organisation d'élections sans violence et démocratique a été bien sûr organisé à l'intention de la société civile ivoirienne. Selon Traoré Wodjofini, conseiller technique au ministère de l'Intérieur, il s'est agi de donner des rudiments sur les droits de l'homme, la désinformation et les violences électorales. Nous l'écoutons.
Il s'agit, au cours de ce séminaire, de renforcer les capacités de la société civile sur leur rôle et responsabilité dans la gestion du processus électoral, afin de garantir la paix et la cohésion sociale. Les organisations de la société civile soient outillées en termes de respect des droits de l'homme, de cohésion sociale et de lutte contre les fake news devant effectivement nous permettre d'aller à des élections libres, justes et apaisées. Nous sommes à au moins 80 personnes, des leaders de la société civile. Vous avez les organisations des droits de l'homme et de démocratie de gouvernance, mais également vous avez les chefs de communautés religieuses.
Mais est-ce que l'occasion a été saisie également pour rassurer cette société civile-là par rapport à la dernière ordonnance qui fait grand bruit actuellement?
Comme vous dites, la une ordonnance qui fait grand bruit, je ne pense pas. Oui, nous suivons de très près la situation et durant ce séminaire, nous avons échangé avec ces organisations, nous avions dialogué, nous sommes en train donc de discuter et de nous entendre.
Traoré Wodjofini, conseiller technique au ministère de l'Intérieur, joint par Constant Maïlé. Gouvernance Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire, regard sur un succès. C'est autour de ce thème que s'est tenu hier mercredi 5 mars à Abidjan-Cocody un panel de haut niveau organisé par le RHDP. Une occasion pour panélistes et témoins de revenir sur les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire sous la présidence de l'actuel chef de l'État, Mardoché Kouassi.
Cette tribune, selon ses initiateurs, vise à favoriser un débat constructif et inclusif sur les enjeux de l'élection présidentielle de 2025 autour du bilan de la gouvernance actuelle en vue de mettre en lumière le travail de développement effectué par le président de la République Alassane Ouattara, candidat du RHDP. Une nécessité, selon Claude Sailly, secrétaire exécutif adjoint chargé de la communication et de la propagande du parti présidentiel.
Il est nécessaire de présenter aux Ivoiriens comment notre pays a enregistré ses importants acquis de développement et éventuellement quelles sont les perspectives auxquelles l'on doit s'attendre.
C'est Gilbert Kone Kafana, président du directoire du parti au pouvoir, qui a procédé à l'ouverture de ce panel de haut niveau. Il est revenu sur les recettes, mais aussi quelques résultats obtenus grâce à la gouvernance Alassane Ouattara.
Le budget de la Côte d'Ivoire, le levier principal de l'action gouvernementale, a été multiplié par 5 entre 2011 et 2024. La richesse nationale produite par nos concitoyens, quant à elle, a été multipliée par 2 avec un taux de croissance annuel de près de 7% par an. Cette réussite est le fruit d'une grande vision, doublée d'un amour acharné pour son pays, d'une organisation et d'une discipline rigoureuse et un immense volume de travail consenti par le président de la République.
En dehors du panel animé par des experts, cette rencontre a été également marquée par des témoignages des compagnons politiques et proches couleurs numéro 1 ivoirien.
Également dans le fil de l'actualité, le gouvernement ivoirien renforce son système de santé pour se conformer aux normes de la CEDEAO et de l'UMOA. 3 projets de loi ont été adoptés hier en commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. L'un instaure un code de déontologie médicale, tandis que les deux autres modifient des articles relatifs à l'exercice de la pharmacie et à l'organisation de l'Ordre national des pharmaciens. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Ngou Temba.
Un premier code de déontologie avait été élaboré dès l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1962, mais ce code a été donc revu pour prendre en compte les innovations que nous avons enregistrées dans le domaine de la médecine, mais également ce code prend en compte les nouvelles dispositions que nous connaissons aujourd'hui pour s'adapter au niveau de la CEDEAO, parce qu'il y a un code harmonisé qui a été adopté et que la Côte d'Ivoire donc devait transcrire. Donc ce matin, nous sommes venus pour faire adopter ce code qui prend en compte les innovations, mais surtout qui renforce la responsabilité du médecin et dans les l'exercice de sa mission et de son art. Ça protège mieux le patient, ça permet de rétablir la confiance entre les praticiens eux-mêmes et leurs patients. Et je pense qu'avec cette série de mesures que nous prenons, nous allons avoir une influence de nos parents dans nos hôpitaux, mais également donc bénéficier des soins de qualité. Vous savez que nous appartenons à la zone UEMOA qui, pour être dynamique, a instauré donc la libre circulation des biens et des personnes, et y compris les professionnels de santé, dont les pharmaciens. La première transcription a été faite, mais comportait quelques coquilles qui ne permettaient pas d'être conformes à la directive qui a été adoptée en 2008. Et nous sommes repassés aujourd'hui pour se mettre aux normes, puisque aujourd'hui, il y a plus de 5 pays qui ont déjà retranscrit cette directive dans leur législation, et c'est important que la Côte d'Ivoire, comme pays leader, soit conforme, et c'est ce que nous avons fait.
Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Ngoundemba, au micro de Junior Cardin. À Dabakala et particulièrement dans le canton de Kotolo, les femmes se distinguent dans la culture maraîchère, mais elles sont confrontées à la mévente de leurs produits. Face à cette situation, les autorités encouragent les productrices à pratiquer désormais la culture de contre-saison afin d'accroître leurs revenus. Là-dessus, le reportage de Joseph Assali.
À Kotolo, village rattaché à la commune de Dabakala, les femmes aspirent à leur autonomisation économique. Pour ce faire, elles s'adonnent à la culture vivrière et maraîchère. Les productions agricoles issues de ces champs ont permis de ravitailler la cantine du village en vivres dans la perspective de l'amélioration des rendements scolaires. Mais seulement, voilà, des contraintes ont freiné les femmes dans leur ardeur. Selon Fatoumata Ouattara, présidente de la coopérative agricole féminine, de Kotolo.
On est dans les besoins d'eau. Faire d'eau là, ça nous fatigue. On veut un barrage pour pouvoir mieux faire les cultures.
Cette doléance rencontre l'assentiment du ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama. À preuve, Jean-Claude Kouassi envisage la création d'une retenue d'eau pour encourager et surtout promouvoir la culture de contre-saison.
Nous souhaitons accompagner les femmes. Les retenues d'eau nous permettront non seulement d'améliorer les cultures que nous faisons en période habituelle de pluie, mais aussi de faire de la production en contre-saison. Et c'est important que nos parents fassent de la culture en contre-saison parce que ça donne encore plus d'argent. Là où il y a la rareté, il y a plus d'argent à gagner. Mais quand en période de pluie, on vient tous avec les mêmes produits, forcément les prix sont plus bas. C'est le mécanisme de l'offre et de la demande.
Puis il annonce la mise en place d'un marché de produits vivriers transformés. Joseph Assalé, Dabakala, Radio de la Paix.
Hors de nos frontières au Burkina Faso, suite à une circulaire du Premier ministre le 10 février dernier, le ministre de la Fonction publique, Mathias Traoré, a entamé un contrôle de présence des salariés. Tous les responsables de services au niveau des ministères sont chargés de pointer les mouvements des agents sous leur responsabilité. À travers cette opération, le gouvernement burkinabé entend réguler les recrutements et la masse salariale en constante croissance. Apprend l'AFP. Et puis au Sénégal, Macky Sall sera appelé devant la justice, selon le porte-parole du gouvernement. Des actes extrêmement graves dans la gestion du pays lui sont reprochés. Sur ce qui pourrait motiver cette démarche des autorités, retrouvons professeur Correa. Il est juriste, par ailleurs enseignant-chercheur à l'université Cheikh Hamidou Kane au Sénégal.
Du point de vue du principe, on peut tous être d'accord que lorsqu'il y a transmission de pouvoir entre pays au gouvernement, que l'on fasse les comptes parce que véritablement les moyens mis à la disposition appartiennent aux peuples africains. Donc je pense que peu d'Africains seraient contre cette règle, ce qui veut que entre un gouvernement sortant et un entrant, qu'il y ait cette reddition de comptes. Par contre, il faut que toute cette volonté-là soit assise sur des règles, des principes et également sur une justice indépendante, à qui on laisserait les moyens de conduire les enquêtes, les instructions, de faire les poursuites nécessaires et de juger les personnes. Pour le président de la République, il ne peut être attrait devant une juridiction que pour haute trahison. Et la notion de haute trahison n'est pas suffisamment définie pour, en tout cas, en l'état, permettre une poursuite du président Macky Sall, sauf si des faits sont avérés et qu'il soit qualifié par un tribunal de haute trahison. Mais de façon générale, il y a une volonté au Sénégal d'une gestion exemplaire des finances publiques. Mais encore une fois, il faut tout ramener à des principes, à une orthodoxie. Sinon, justement, ça va plus ressembler à une chasse aux sorcières qu'à autre chose. Et il faut éviter de donner cette impression-là.
À l'instant, vous écoutiez professeur Correa, juriste, par ailleurs enseignant-chercheur à l'université Cheikh Hamidou Kane au Sénégal. À présent, l'invité de la rédaction, qui est Dr. Pierre Norlander, le président du Parti des démocrates de Côte d'Ivoire sur la récente alerte de la SIED face aux propos haineux des partis politiques, se prononce. Dr. Pierre Norlander rappelle à tous le code de bonne conduite signé pour favoriser des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Sur le sujet, il est interrogé par Soro Adams.
Bonjour Dr. Norlander.
Bonjour, Monsieur Sorel.
L'arène politique de votre pays, la Côte d'Ivoire, est particulièrement animée depuis un certain temps. Les propos des acteurs politiques ne sont pas du tout à la tendresse.
C'est ça.
Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça?
Vraiment, ça m'inspire quand même de l'inquiétude. Quand bien même que je sois de nature optimiste, les propos tenus ces derniers temps par nos amis politiques vraiment ne sont pas bons. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. On a parlé de nationalité. Bon, il y a eu beaucoup de choses qui nous rappellent vraiment un passé pas trop loin. Un passé récent qui n'a pas été glorieux pour notre pays. Je veux parler de la crise de 2010. Alors, ces gens, des propos, nous les avions entendus bien avant ça. Alors, la SIED est créée pour pallier à ces choses-là. Nous avons parlé à tous nos partis. Nous sommes sortis pour dire qu'il faut vraiment bien cadrer les discours politiques et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'agressivité, il n'y ait pas de discours de haine. Nous sommes sortis pour essayer d'interpeller les partis politiques et même interpeller la presse, les hommes de médias, pour dire que aidons la Côte d'Ivoire à ne plus revivre le passé, le mauvais passé restant de 2010.
Mais avez-vous l'impression d'avoir été entendu par les uns et les autres?
Bon, je peux dire plus ou moins non, parce que en tenant des propos pareils, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Nous devons encore continuer la sensibilisation, demander à créer continuellement un cadre de paix, de cohésion et de fraternité pour les filles de la Côte d'Ivoire et les fils de la Côte d'Ivoire. Parce que avec cette attitude, nous ne pouvons pas aller loin.
Et pourtant, un code de bonne conduite a été signé par les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire.
Oui, le code de bonne conduite a été signé par les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire. Et ces derniers temps, vous avez vu qu'il a été respecté, plus ou moins. Mais nous devons continuer. Il est de notre devoir à la SIED de continuer à promouvoir ce code-là. C'est pourquoi, dès le mois de mars, nous allons encore parcourir les QG des partis politiques et aussi faire appel à nos antennes qui sont à l'intérieur de la Côte d'Ivoire pour faire les mêmes démarches, aller vers les partis politiques, les citoyens et les religieux pour leur parler de la bonne nouvelle qu'est la paix et la paix électorale. Et donc, le contexte nous permet de vraiment prendre le taureau par les cornes afin que nous ayons des élections apaisées dans ce pays. Nous sommes tous des frères en Côte d'Ivoire, on se connaît tous. Pourquoi ne pas parler d'une seule voix, nous entendre sur la paix, qui est quand même notre symbole, depuis toujours, le dialogue et la paix. Vraiment, je ne pense pas qu'il y ait un réel problème, mais c'est un problème d'incompréhension, de part et d'autre. Aujourd'hui, on devrait avoir dépassé ces discours que nous entendons maintenant et chercher plutôt à informer les Ivoiriens de ce que nos prochains candidats aux élections vont faire. Parce que ces discours-là, franchement, il y a des internautes qui disent n'importe quoi. Vous voyez, il y a trop de choses. Bon, comme tout ce qui se dit sur l'Internet n'est pas aussi, sur les réseaux sociaux, n'est pas toujours vrai. Donc, bon, on essaie de ne pas trop en parler. Mais je veux dire que j'interpelle nos partis politiques, les leaders des partis politiques, les militants des partis politiques à prôner la paix, la cohésion sociale. C'est très important pour notre pays afin d'offrir à la Côte d'Ivoire des élections démocratique, transparente, crédible à notre pays, surtout. C'est ça le plus important. Il faut sortir des dérives actuelles qui parlent de nationalité, qui parlent de détournement. Bon, il y a des choses, on n'a pas besoin d'attendre ça. Et vraiment, j'interpelle tout le monde, les hommes de presse, les religieux, les partis politiques, les leaders d'opinion, à se mettre ensemble pour parcourir la Côte d'Ivoire et semer la paix.
Je vous remercie, docteur.
Merci, cher frère.
Aujourd'hui, invité de la rédaction, Dr Blé-Pierre Norlander, président du parti Les Démocrates de Côte d'Ivoire, mais également président de la Sienne, était avec Soro Adams. Fin de ce 12 heures, le rappel des titres. En visite d'amitié et de travail hier en Côte d'Ivoire, le président ghanéen John Dramani Mahama a joint sa voix à celle de son homologue ivoirien Alassane Ouattara pour appeler les pays de l'AES à réintégrer la CEDEAO. Et puis hors de nos frontières au Burkina Faso, au début des contrôles dans la fonction publique. Merci de votre attention à 15h, un flash d'information. Mais avant, la revue de presse avec Francis Cassi.
Bonjour à tous. C'est par la visite à Abidjan du président ghanéen à son homologue ivoirien que nous aurons notre examen de vos journaux de ce jeudi. Retrouvailles hier au palais présidentiel, le président de la République, Alassane Ouattara, a accueilli son ami et frère John Dramani Mahama. C'est sans doute l'une de ses qualités, la ponctualité. Le président du Ghana, John Dramani Mahama, est arrivé hier à Abidjan à 10h30 minutes.